Voix nue. Cette semaine, Virginie Despentes et Élodie Deglaire rencontrent Jean-Claude Fasquelle. Ce soir, arrêtez avant de ne pas s'entendre.
1970. Jean-Claude Fasquelle, nous avons évoqué hier les nouveaux philosophes. Mais les années 70, pour vous, c'est aussi les éditions du Sagittaire. En 75, vous récupérez ce qui reste de cette prestigieuse maison d'édition et vous la relancez, avec Gérard Guégan comme directeur, Raphaël Sorin et Olivier Cohen. Cette équipe vient de Champs Libres, maison créée par Gérard Lebovici. Ils publieront entre autres Béatrice Beck, Bukowski et le premier roman de Jean-François Bizot et de Léon Mercadet. Comment passe-t-on des hussards aux anciens de Champs Libres ou à l'équipe de Actuel?
Bon, d'abord, les éditions du Sagittaire, je les avais rachetées à titre personnel au moment de du rapprochement de Grasset avec les éditions Fasquelle, parce que ce rapprochement ne me plaisait pas à l'époque. Et je me disais, bon, j'ai eu l'occasion de racheter les éditions du Sagittaire et je comptais terminer la publication chez Fasquelle de mon encyclopédie de la musique et ensuite partir avec le Sagittaire faire une autre maison. Il se trouve que je me suis très bien entendu avec les gens de Grasset, qu'une autre aventure s'est profilée. Ce qui fait que donc, au bout d'un moment, j'ai remis le fond du Sagittaire dans le fond Grasset, cédé la marque également à Grasset. Ce qui fait que quand en 75, la fine équipe de Champs Libres est arrivée, c'est comme ça que la marque, le Sagittaire, se trouvait disponible pour une nouvelle aventure. Mais elle n'est pas entrée chez nous en 75, mais plutôt en 60.
Mais c'est en 75 qu'il recommence à publier.
Ça, les dates, moi, vous savez.
D'accord. Qu'est-ce que représentait le journal Actuel à cette époque?
Eh bien, à cette époque, le journal Actuel avait cessé de paraître. Et nous avons ressuscité au Sagittaire Actuel sous forme d'almanachs. Des gros almanachs, très amusants, très bien faits. Et voilà, il y avait autour d'Actuel, autour de Bizot, tout un tas de gens qui vivaient d'ailleurs tous ensemble dans une espèce de château à Saint-Maur, qui était un endroit absolument extravagant, très sympathique. Mais pour Grasset, ça a été très important parce que, d'abord, vous parliez de Bizot comme écrivain, oui. Mais il y a des collaborateurs, par exemple Rimbaud.
C'est à cette époque que vous rencontrez Patrick Rimbaud et que vous commencez à le publier?
Oui.
Ouais. Oui. Comment était-il à l'époque, Patrick Rimbaud?
Bon, il était, comme aujourd'hui, plein d'humour, de talent, de drôle. Il adorait raconter son service militaire qu'il avait fait dans l'aviation, service militaire dans les années 50, c'était pas ordinaire. Non, c'était... Et pas Rimbaud, d'ailleurs, il y avait son
Michel-Antoine Burnier,
oui. Qui étaient des très bons amis, tout ça. Et Actuel, ça a été une bonne opération d'abord. Et puis encore une fois, l'occasion de connaître bien tout un groupe de gens, un réseau nouveau.
C'est un journal qui va vraiment changer le paysage pendant 20 ans du journalisme.
Oui, et puis je crois que Bizot a amené beaucoup la musique dans la littérature. Je ne sais pas comment dire. Mais avant, il n'y avait pas grand-chose. La série noire a fait beaucoup pour le jazz, d'une époque. Et puis après, c'est devenu une simple collection policière. Mais actuelle, c'est pareil. C'est plus, peut-être même davantage. Je crois même que quelque chose comme les Inoccupables n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette espèce de modèle antérieur qui était actuel. Musique, texte, etc.
Et les Inrocks dans lesquels vous vous êtes aussi engagé?
Ah ben oui, quand ils ont voulu reparaître en mensuel. Ils ont changé de... ils ont cessé de paraître en mensuel, ils ont voulu reparaître en hebdomadaire. Évidemment, il fallait des actionnaires. Et nous avons fait partie de l'équipe pour les parties avec eux. En fait, c'est le magazine littéraire, d'ailleurs, qui a été l'investisseur. Mais pour moi, ça n'a pas été une expérience très, très sympathique, parce que les dirigeants des Inrocks, à l'époque, le magazine littéraire, ça leur faisait un peu honte d'être financé par un petit journal littéraire. Ça ne collait pas avec leur besoin d'image. Alors, voilà, petit à petit, on s'en est un peu de... Puis ils n'ont eu plus non plus besoin de nous. Donc, mais à un moment donné, c'est vrai qu'on a été... j'aurais même fait un prêt cautionné par le titre. J'aurais rendu leur titre, d'ailleurs... Mais enfin, ça a donné... on parlait de ça, c'est plutôt à propos de bisous, non?
Mmh. Oui, de l'aventure du Sagittaire. Et par exemple, pour vous, il y a quelques jours, vous nous parliez de la belle écriture. Comment est-ce que vous avez compris l'arrivée d'un roman américain comme celui de Bukowski? Vous avez lu Bukowski quand il a été traduit en France, ou ça ne vous a pas intéressé? Ou est-ce que vous l'avez lu et vous avez compris?
Ah, mais j'ai compris, je comprends tout de suite.
Oui.
Pas...
Ça a dû surprendre, quand même.
Wow.
Non?
Non, vous savez, moi je lisais beaucoup de littérature américaine, de toute manière. Non, je suis épaté, parce que c'est formidable, ébloui. C'est pour ça, pour ce genre de livre-là, que j'ai voulu faire le Sagittaire avec cette bande-là.
Ouais.
Il était fait pour ça. Et puis, au bout de quelques années, ils ont voulu faire la NRF. Ils se sont mis à faire du roman convenable. Très bien, d'ailleurs, pas mal. Mais c'était du grasset sans grasset, si vous voulez. Ça n'avait plus beaucoup de sens. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais inconsciemment, tout de même, ils voyaient bien que c'était quelque chose qui ne collait pas. Et je crois qu'on a arrêté avant de ne pas s'entendre.
Si on fait un parallèle entre Bukowski et actuel, est-ce qu'il y avait une volonté de transgression, d'ailleurs, puisque vous parlez de la NRF, est-ce que actuel et Bukowski, par exemple, étaient une transgression quant à ce qu'on pouvait publier à l'époque?
Je ne dirais pas les textes de Bukowski. Les textes de Bukowski entraient dans l'éventail de ce qu'on pouvait publier. Il y en a eu d'autres, je veux dire, des gens comme Guillotin, ou puis d'autres qui avaient une transgression politique, qui glissaient trois phrases antisémites dans leur bouquin. Voilà. Mais... En revanche, ce qui était une véritable transgression, c'était le personnage Bukowski. L'homme, ses comportements, ses réactions, Voilà, ça c'était... J'imagine qu'il y en a eu à toutes les époques, d'ailleurs. Les descriptions qu'on a d'Alfred Jarry, se promenant dans Paris, allant en pantoufles, péter. Je crois que... Mais bien sûr, sûrement eu d'autres.
Mais par exemple, au moment où ça s'est produit, Bukowski apostrophe, ça vous fait rire sur le coup ou ça vous paraît un peu trop? Vous vous souvenez de cette émission quand elle s'est
produite?
Oui,
très bien. C'était... Oui, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Ça n'a pas fait rire Pivot.
Non.
Mais il faut peut-être dire que il était tellement saoul.
Ou alors il était bien semblant. Hein.
Oui. Ouais. Que carrément il a dégobillé sur le plateau. Car ça faisait pas bon genre. On peut pas dire.
En 1973, Grasset Jeunesse se met à exister. D'où vient la décision de publier des livres jeunesse à l'intérieur de Grasset, maison de littérature classique et littéraire?
Comme toujours, c'est une question d'homme. On est tombé sur un génie, c'était François-Louis Vidal. C'est un homme, un fou de livres pour la jeunesse. Il connaissait tous les illustrateurs, il avait des idées pédagogiques tout à fait remarquables. C'était un grand bonhomme. Donc, quand il arrivait avec ses projets, eh bien, on a dit, il faut dire que Gallimard avait créé ce secteur jeunesse depuis un moment et ne s'en plaignait pas. Nos auteurs, il y en a beaucoup qui étaient tentés d'écrire un conte ou quelque chose pour les enfants, autant que ce soit chez nous, plutôt que... Enfin, voilà. Donc, on a fait ça. Et ça, voyez-vous, c'était une très bonne chose du tandem que nous faisions, Bernard Privat et moi, c'est que... il y en avait un qui avait toujours du temps pour s'occuper de choses nouvelles. Comme ça que moi, je me suis occupé du domaine étranger, Et grâce à Jeunesse, c'est tombé comme ça dans mon escarcelle. Et ça a été une expérience tout à fait formidable. En particulier parce que il y a le grand salon du livre d'enfants se tient à Bologne tous les ans, au printemps. Et c'est également à Bologne que Umberto Eco avait sa chaire où il donnait un cours 6 mois par an pratiquement, à l'époque. Ce qui fait que J'allais à Bologne pour mes livres d'enfants et je passais mes soirées avec Umberto, ce qui nous a beaucoup rapprochés, comme quoi tout se tient dans ce métier.
Et donc quelques années plus tard, en 1980, vous devenez président des éditions Grasset et Fasquelle. Quelles ont été vos premières décisions? Quelle équipe est-ce que vous avez constituée? Qu'est-ce que vous avez une fois que vous étiez directeur des éditions? Quelles ont été vos orientations?
Strictement rien. C'était exactement comme avant.
Mais sans Bernard Privat.
Sauf que Bernard Privat, on avait prévu avec lui un rôle de garder son bureau. Il pouvait faire ce qu'il voulait à la maison, voir ses auteurs, etc. Mais il a mal supporté le... Au fond, c'est le comportement des gens qui a changé avec lui. Il voyait passer des gens qui, d'habitude, s'arrêtaient dans son bureau et qui allaient directement dans le mien. On a eu un petit moment difficile, là. Et puis, il a décidé de ne plus venir régulièrement. Tout ça, c'est terminé. Voilà, c'est ça. Ça a été l'indifférence. C'est importante, parce que moi, j'ai dû à ce moment-là reprendre tout ce dont il s'occupait, lui. Il m'a ajouté du... Ça m'a occupé davantage.
Et ça vous a déçu de voir que les auteurs passaient devant son bureau sans s'arrêter, ou ça vous a paru bien normal? où ça vous a paru une marque d'ingratitude ou de...
Non, ça ne fait pas de morale, ces choses-là. C'est...
Est-ce qu'il a quand même gardé des écrivains sur lesquels il travaillait déjà les textes, ou vous preniez tout en tant qu'éditeur ?
Eh bien, moi, personnellement, pas tout. Je veux dire, Yves Berger, Françoise Verny, Nourricier surtout, ont repris le rapport avec pas mal d'auteurs. Mais, ben. Oui, il a bien fallu faire ça. Mais on partageait tellement des choses avec Bernard auparavant que. Tout est pour la maison, ça s'est passé tout à fait normalement.
En 1980, Jean-Claude Fasquel, vous avez 50 ans et vous devenez directeur des éditions Grasset et Fasquel. Fonction pour laquelle vous étiez en compétition avec Claude Durand. Pouvez-vous nous dire un mot, justement, de ces relations entre Grasset et Fayard, maison physiquement voisine, durant votre présidence ?
Quand j'ai pris la présidence, les choses étaient réglées depuis des mois. Et ça devait se passer comme ça. Claude Durand devait rester ce qu'il était, c'est-à-dire directeur général adjoint chez Grasset. Et c'est du reste un rôle qu'il a tenu très, très, très simplement avec moi. Pendant des quelques mois, avant que qu'on lui propose de reprendre les éditions Fayard. Non, ce problème de succession, c'est un peu un mythe. La vérité, c'est que Claude est entré dans la maison pour que nous reformions, lui et moi, le même tandem que je formais avec Bernard Privat. Ça me semblait une très bonne façon de diriger une maison d'édition. Parce que justement, ça laisse un créneau de liberté, pour une ouverture, pour faire autre chose, pour voilà, être disponible. Toujours être disponible. Mmh. Mais... En fait, moi, je ne peux pas me mettre dans la tête de Claude Durand, mais tout ce que je sais, c'est que je suis persuadé que il était désolé de ne pas avoir pu prendre la direction du Seuil et que il voulait être patron et que ce système successoral, je trouve ça un peu long, peut-être. Voilà. Alors, il y a eu comme ça des tentatives de... Mais pas au niveau de succession, si vous voulez. Ça a débouché sur sa nomination comme directeur général. Et puis voilà.
Vous vous consultiez pour la publication des textes. Il était d'accord avec ce que vous publiez ?
Ah ben, lui était complètement associé à tout. Il a amené des auteurs, d'ailleurs. Mais...
Qui sont restés chez Grasset ?
Non, la plupart, ils se disaient emmenés chez Fayard. Et voilà, donc... C'est très simple. Un jour, Jacques Marchandise, qui était le président d'Hachette, m'a demandé d'aller prendre un verre avec lui dans un bar d'hôtel près de Porte-Maillot. Hein. Et voilà, il m'a dit nous avons un problème pour la direction de Fayard, on ne trouve pas la personne adéquate. Et il y a chez vous Claude Durand, dont je suis à peu près persuadé que si quelqu'un lui propose la direction d'une maison d'édition, il acceptera. Il a du talent, gardons-le dans le groupe. Et voilà, j'aimerais lui donner la direction de Fayard. Mais, a-t-il ajouté, c'était quelqu'un de convenable, je ne ferai rien si vous ne me donnez pas votre accord. J'ai dit, bah, évidemment, je donne mon accord. Tout le monde pense que j'ai eu raison, parce que on aurait jamais pu s'entendre sur une longue durée. Ça, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé, ça aurait peut-être marché très bien.
Vous parlez de talent. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un éditeur est un bon éditeur ?
S'il fallait trouver un étalon, si je puis dire, c'est ce qu'en disent ses auteurs. Je crois que c'est là que ça se passe. Après, je crois qu'un des grands, des vrais talents d'un éditeur, c'est son équipe. C'est les gens qui... C'est même pas de savoir déléguer, c'est plus que ça, c'est autre chose. C'est de se partager, voilà. Je veux dire... Et puis, savoir investir. Savoir investir, c'est-à-dire de savoir investir dans les hommes, dans les personnes. Chez nous, par exemple, on a eu une obsession, c'est de trouver et de prendre et d'arracher, comme même à prix d'or, les meilleurs attachés de presse qui étaient de la profession. Toujours.
Vous pensez que
de Monique Maillot à Yodi Deglaire, en passant par... c'est vrai. En passant par Claude Delator. Ouais.
Vous pensez que c'est un poste vraiment important, que c'est une fonction très importante dans une maison d'édition ?
C'est très important, oui, parce qu'il faut que faire connaître les livres, bien entendu. Donc, il faut des articles, il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait la télévision, mais il faut que faire intelligemment. C'est pas la peine d'envoyer chez Pivot quelqu'un qui va être absolument désastreux, qui va engraver son cas encore. Et puis, les attachés de presse avaient un lien avec les auteurs très important, parce que c'est la personne au fond de la maison qui sont le plus proches. Donc, ils se voient en dehors même du lancement d'un livre, ils parlent, qu'est-ce que tu fais, où t'en es, ils encouragent, ils alertent l'éditeur aussi sur des choses qui peuvent ne pas aller, c'est très important. Ça, il faut savoir le faire. Il faut prendre le temps de le faire aussi. Alors moi j'avais le Twickenham ou le bar de l'hôtel des Saint-Pères comme où on se retrouvait pour faire un peu le point de temps en temps. C'est là que j'ai connu d'ailleurs Élodie Leglaire qui est arrivée dans le bar en patin à roulettes avec une coiffure à la Bardot et un curriculum vitae. Je m'en rappelle même pas si je l'ai lu.
Vous vous êtes dit c'est bon.
Oui.
Jean-Claude Fasquelle, Nicky Fasquelle vous a toujours accompagné. Quel a été son rôle auprès de vous ? Parleriez-vous d'une collaboration ?
Oh, c'est plus une collaboration, je crois que c'est une... D'abord, notre vie privée, nos amis, nos soirées, nos nuits, nos vacances, c'était toujours avec des gens de la maison ou des écrivains. Et pour ça, si on a une femme qui est un petit peu réticente, c'est une catastrophe. Et elle était toujours là, toujours présente, toujours active, curieuse, etc. Et en plus, quand j'ai racheté le magazine littéraire, elle a pris là-bas des fonctions extrêmement importantes. C'était pratiquement qui dirigeait le journal. Le journal fonctionnait grâce à elle. Voilà. Et je crois que dans les rapports d'amitié qu'on peut entretenir avec des écrivains, on est deux. Et puis elle est restée près de moi, s'occuper du magazine. Mais par exemple... La femme de Claude Gallimard, Simone, qui était également très proche des écrivains et qui a été elle est devenue carrément éditeur, elle. Tandis que Nikki, elle est toujours un peu dans l'ombre, mais puis tout le monde l'adore.
Elle était toujours d'accord avec vous ?
Non, non, non. Mais voilà, moi j'étais pas non plus d'accord avec elle.
Et en 1983, c'est aussi la création de la collection des Cahiers Rouges, chez Grasset. Qu'est-ce qui a présidé à cette décision de créer
les Cahiers Rouges ? Il y a longtemps que j'y pensais à créer une collection de poches intermédiaire entre l'édition normale et le livre de poche. Pas le livre de poche, la collection de livres de poche. Parce que de plus en plus, pendant très longtemps, le livre de poche servait à conserver les fonds d'édition. Il réimprimait quand tout ça était épuisé, il réimprimait. Et puis, à certains moments, il ne réimprimait plus que les livres qui se vendaient suffisamment. Donc, entre les livres qu'il n'avait pas pris et les livres qu'il ne réimprimait pas, il y avait la place pour une collection un peu plus haut de gamme. Voilà, c'était ça l'idée de base. Et si possible, un peu original, un peu... Et là, Marie-Hélène de Vidio, qui s'occupait de la gestion des droits de poche en particulier, etc., m'a beaucoup aidé à faire ça. Et ça a tout de suite marché, à peu près. Alors, pourquoi ça s'appelle les Cahiers Rouges ? C'est parce que il y avait une collection qu'avait faite Bernard Grasset qui s'appelait les Cahiers Verts. Les Cahiers Verts, c'était le contraire. C'était avant en même temps, plutôt que la première édition en librairie normale, faisait un tirage d'à peu près 2000 exemplaires, numérotés, etc., qui était réservé à des acheteurs qui collectionnaient les livres comme ça. C'était une collection de mi-luxe. Voilà. Alors, le Cahier Rouge, c'est pour rester dans cette idée une couleur et de... Il n'y a aucune arrière-pensée politique derrière rouge, mais voilà.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Virginie Despentes et Élodie de Glaire avec Jean-Claude Fasquelle. Voix nue, réalisation Julie Béressy, prise de son Clémence Bonfils, coordination Claire Poinsignon. À Voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.